Parents Live, la vie de famille en direct.
Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados sur un sujet qui vous tient à cœur? Racontez-vous.
Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, celle qui tâche, qui fait du bruit, qui empêche de dormir ou qui claque les portes.
Rejoignez le direct Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM.
Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos créées dans le cadre du projet Parents Live sur parentslive.fr. Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous. Comme le générique vient de vous le dire, Parents Live, une émission qui a lieu tous les deuxièmes mercredis du mois. Toujours avec Flo, qui est mon acolyte hein, sur cette émission, qui est l'acolyte principal même. Ça va Flo ?
Ça roule, oui.
Ouais, très bien. Aujourd'hui, un sujet, le Parents Live, émission numéro 12, enfants et parents hypersensibles, Flo.
Et ouais, donc l'hypersensibilité, c'est un sujet de recherche qui est relativement récent. C'est que depuis environ 30 ans qu'on la reconnaît, qu'on l'étudie, qu'on la comprend. Donc selon les définitions retenues, elle concerne environ 20% de la population. Et il y a un chercheur français qui s'appelle Saverio Tomasella, qui est spécialiste de ces questions depuis une quinzaine d'années, et qui explique que l'hypersensibilité, c'est une sensibilité plus intense et plus variée que la moyenne. Il y a aussi une autre personne qui s'appelle Hélène Aron, qui est américaine, qui travaille beaucoup sur le sujet depuis les années 90, et pour qui c'est une suréfficience et une hyperactivité cérébrale liée à la sensibilité. Ce qui est important de se dire, que ce n'est pas un handicap, ce n'est pas un défaut, mais c'est plutôt un tempérament, un trait de caractère, une façon d'être au monde et de le ressentir qui est différente de la norme, notamment des personnes qu'on peut dire neurotypiques. Et en gros, une personne hypersensible va pouvoir notamment avoir un ou plusieurs de ses sens qui sont exacerbés, être plus vite gênée, fatiguée, irritée quand il y a beaucoup de bruit, des lumières, des odeurs fortes, du désordre. Et elle ressent tout le panel des émotions plus intensément, que ce soit la colère, la tristesse ou la joie. Elle va aussi avoir un sens de la justice et de l'équité qui va être très développé, traiter l'information en profondeur et mettre un peu plus de temps à agir. Et puis dans ses relations aux autres, elle peut être très entière, elle fait preuve d'une grande empathie et puis parfois elle a du mal à distinguer ses émotions et puis celles des autres.
Ouais, on dit... Vas-y, tu voulais rajouter
ouais,
d'ailleurs.
Ouais, en fait, pardon. L'hypersensibilité, elle est toujours corrélée à un diagnostic de haut potentiel intellectuel. C'est le cas pour les enfants dont on va parler lors de l'émission. Mais par contre, toutes les personnes hypersensibles ne sont pas forcément HPI. En fait, il y a trois personnes des personnes hypersensibles qui sont aussi HPI, donc au potentiel intellectuel. Et donc, suivant les enfants, c'est l'une ou l'autre des caractéristiques qui est découverte en premier et c'est vraiment très fortement imbriqué.
On dit souvent des personnes hypersensibles qu'elles dramatisent ou qu'elles exagèrent, qu'elles prennent les choses trop à cœur. Aux femmes, on reproche leur hystérie. Aux hommes, leur réaction sanguine ou au contraire trop fleur bleue. Avec les enfants, on pointe leurs caprices, leurs comédies, leur cinéma, leurs pleurs excessifs, leurs crises de colère, leur timidité ou encore leur exubérance. La haute sensibilité vient questionner notre façon d'être, de réagir en tant que parent. Elle peut nous agacer, voire nous faire craquer. Elle a un impact sur la parentalité quand les personnes sont parents et hypersensibles eux-mêmes. Alors force ou fragilité, handicap ou potentiel, comment accompagner un enfant hypersensible? Comment être parent et hypersensible? Flo?
Eh bien, on a plein d'invités pour y répondre encore une fois pendant une heure. Donc, on a Séverine, qui est maman d'un garçon de 13 ans, Marion, qui est maman d'un enfant de 10 ans, qui sont avec nous en studio. En visio, on a Delphine Charrière, qui est sophrologue.
Bonjour.
Et qui intervient spécifiquement auprès des enfants hypersensibles depuis 2 ans. Et puis, j'ai également interviewé la maman d'une petite fille de 7 ans et aussi Claire, qui est éducatrice de jeunes enfants, formatrice auprès des professionnels de la petite enfance sur l'éducation aux émotions et l'éducation positive. On va entendre ces deux personnes aussi à plusieurs reprises, en plus des invités dans l'émission. Et vous pourrez aussi écouter l'intégrale de l'interview que j'ai faite de Claire en bonus, où elle va développer un peu plus l'importance de l'éducation positive pour accompagner les enfants hypersensibles. Donc, bonjour Séverine, bonjour Marion.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va commencer par se demander, vous... quels ont été les signes qui vous ont permis de repérer, d'identifier et puis ensuite de diagnostiquer l'hypersensibilité chez votre enfant?
Alors, pour moi, en fait, on a d'abord diagnostiqué le HPI Dianis à 9 ans, donc le haut potentiel intellectuel. Et c'est donc en faisant mes propres recherches sur le haut potentiel intellectuel que j'ai découvert l'hypersensibilité, l'hyperesthésie. Et du coup, en fait, ça fait tout un... C'est là que j'ai compris, en fait, que j'ai compris pourquoi mon fils... pouvait avoir à des moments des tempêtes émotionnelles, des pleurs de décharge quand il était enfant, ou alors une hypersensibilité auditive quand on va dans des concerts, ne pas supporter le bruit, ou alors quand il était tout petit que je lui donnais la douche, ça lui faisait des guilis, C'était vraiment un moment magique, mais c'était très compliqué de lui donner la douche parce que l'eau sur sa peau, ça, c'était vraiment une hypersensibilité. Il était mort de rire. Ou alors tout ce qui est vêtements, le fait de porter des jeans, donc ça, c'est très compliqué. Donc ça, voilà, le fait d'avoir découvert le HPI, ça m'a permis de comprendre cette hypersensibilité et de mieux l'accompagner.
D'accord. Et de votre côté, vous, Marion, c'est quoi qui a été déclencheur ?
Oui, moi, de mon côté, c'est à 2 ans, quand il est arrivé dans un contexte de crèche. À ce moment-là, il avait énormément de mal à se calmer dans le groupe. Il avait des émotions de joie, d'excitabilité dans le groupe qui étaient très fortes et qui n'arrivaient pas à retomber. Et donc, très rapidement, l'équipe m'a signalé que ce n'était pas commun. La psychologue a pu venir l'observer, nous a convoqué les parents. Et là, nous avons bien constaté qu'elle avait déjà détecté que certainement il y avait une hypersensibilité et probablement un haut potentiel intellectuel également.
D'accord. On va écouter la maman de la petite fille de 7 ans qui nous explique aussi comment l'hypersensibilité a été découverte chez son enfant.
Et ben en fait, à sa rentrée de CE1, au bout d'une semaine, 2 semaines, son maître, il a commencé à nous interpeller parce qu'elle a commencé à beaucoup pleurer en classe, sans raison, hein, de façon irrationnelle même, et elle a commencé à ne plus vouloir jouer, elle a commencé à rester avec les adultes, et puis nous, on l'a retrouvée le soir complètement épuisée. Ça a duré une dizaine de jours. En fait, on a tout de suite pensé à un problème somatique, physiologique, donc on lui a fait faire des prises de sang, on l'a emmené chez le pédiatre, tout était normal. Et en fait, rapidement, elle a commencé à ne plus vouloir aller à l'école. Et là, on s'est retrouvé avec notre fille complètement tétanisée devant la grille de l'école à 8h30 le matin, au point de même de suffoquer. Et du coup, on a commencé à ne plus pouvoir la mettre à l'école. En l'espace de quelques jours, elle a commencé à plus avoir d'envie, même pas regarder un dessin animé, jouer, sortir. On a continué quand même à essayer de l'emmener à l'école parce qu'en fait, au départ, c'est pas facile de savoir, d'identifier en fait si c'est de la comédie ou s'il y a une souffrance plus profonde qui est réelle. Et au bout de quelques jours, elle a commencé à plus s'alimenter. Elle a perdu 3 kilos et du coup, son pédiatre, il l'a fait hospitaliser. Et à partir de ce moment-là, on a pu avoir le diagnostic. En fait, on nous a expliqué que notre fille, elle était complètement stressée et que elle était en fait hypersensible. On connaissait pas énormément, donc il a fallu vraiment qu'on se documente. Et en plus, on nous a expliqué que c'était un mode de fonctionnement qui était vraiment inconscient. Et elle a toujours eu ça en elle et ça s'est majoré en fait en grandissant. En plus de son hypersensibilité, derrière, on nous a demandé de lui faire faire un bilan neuropsy chez une neuropsychologue. Et du coup, elle est au potentiel intellectuel. Donc, les enfants au potentiel intellectuel, la majorité sont hypersensibles. Donc, c'est ça qui crée un handicap.
Donc, on entend cette maman et du coup, avec l'hypersensibilité qui a carrément développé une phobie scolaire. Vous, de votre côté, avec vos enfants, ça s'est passé comment avec d'abord... Marion, vous parliez de la crèche, mais après avec l'école.
Oui, l'école, ça a viré à la, effectivement, à quelque chose qui ressemble à la phobie scolaire. C'est-à-dire que mon fils, en moyenne section, ne voulait plus du tout aller à l'école. La maîtresse, qui était aussi la directrice, nous avait convoqués dans des équipes éducatives en nous disant que notre fils s'isolait, ne participait pas au groupe, se coupait des apprentissages. Et aussi avait des moments de colère. Alors, elles avaient malheureusement pris l'habitude de le tenir. Je pense à certainement aggraver les choses. Et mon petit garçon ne voulait plus du tout aller à l'école. Donc, il me suppliait de ne plus l'emmener. Heureusement, nous avons pu mettre en place un suivi. On a été sommés de le faire, en fait. Hein, sinon, il devait être, ça ne pouvait pas continuer. Hein. Et... après plusieurs échecs, c'est-à-dire qu'on a été orienté dans un premier temps vers des personnes qui n'ont pas vraiment aidé. Et ensuite, nous avons pu trouver une psychomotricienne en libéral qui l'a bien accompagné, qui a diagnostiqué qu'il ne gérait plus le fluide émotionnel et qui l'a aidé à prendre du recul. Et à partir de là, les choses sont petit à petit rentrées dans l'ordre.
Donc dans la deuxième partie de l'émission, on va pouvoir développer tout ça, comment accompagner au quotidien avec des non-professionnels, avec des certaines formes de thérapie qui peuvent aider plus que d'autres. Séverine, du coup, est-ce que vous voulez rajouter, vous, quelque chose par rapport à l'école ?
Alors moi, ça c'est, il n'y a pas eu de gros soucis à l'école, mais il y avait quand même un enfant qui avait des émotions plus intenses. Donc quand il était plus fatigué, bah, ça les chouinait plus facilement. Après, on a au CP, en fait, j'ai dû déménager, donc il a changé d'école en cours. Et c'est vrai qu'on était, on se posait des questions par rapport à le fait qu'il pleurait facilement. Ses émotions étaient plus intenses. Et donc moi, à cette époque-là, je remettais la faute en fait sur la grand-mère. Je disais, bah, c'est parce qu'elle le garde, elle le gâte trop en fait. Parce que je travaillais beaucoup à ce moment-là et du coup, il était souvent avec elle. Donc je remettais la faute sur ça. Je ne remettais pas en cause que Yanis pouvait être hypersensible. Je ne connaissais pas ça. Donc je remettais la faute sur la grand-mère. Et ensuite, quand on a déménagé en CP, du coup, on l'a fait suivre pendant un an au CMP pour avoir des réponses. Et en fait, au bout d'un an, on n'a pas eu plus de réponses là-dessus. Yanis, au bout d'un an, il a dit que ça lui était pas utile, donc du coup on a pris le choix d'arrêter. Voilà. Et puis ben après c'est suite voilà pour après en CE2 il y a une maîtresse qui m'a interpellée là-dessus et qui nous a proposé un diagnostic en fait de faire le test de HPI.
D'accord.
Delphine peut-être parce que vous pouvez nous présenter rapidement votre activité et quelques autres éléments aussi pour donner mettre la puce à l'oreille aux parents et professionnels. Mais tout d'abord, votre activité, elle consiste en quoi ?
Du coup, moi, je suis sophrologue, c'est-à-dire que je vais essayer d'apprendre à ces enfants-là à revenir à leur corps, à leurs sensations et à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et puis, pouvoir mettre en place des outils pour pouvoir s'apaiser à certains moments et puis pour faire en sorte que, justement, ils aient des choses pour plus apprivoiser ces émotions-là qui sont débordantes et qui les envahissent, et surtout qu'il y ait de la compréhension de leur fonctionnement, parce que ce sont des enfants qui ont besoin de comprendre ce qui se passe.
D'accord. Et qu'est-ce qui peut mettre la puce à l'oreille aux parents et aux professionnels ?
Alors, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites, et je dirais surtout, on peut avoir des enfants qui d'un coup vont avoir comme seule réaction cette angoisse qui va être débordante. Vraiment, quand on sent qu'il y a de l'anxiété et de l'angoisse débordante comme ça, hein, et que les processus et les réponses vont être de l'évitement ou de l'opposition pour éviter ces situations anxiogènes, bah, oui, il faut se poser des questions. Il y a des enfants qui parfois n'arrivent pas à passer de la table du salon de chez eux à leur canapé tout seul. Et c'est là où, quand la seule réaction devient effectivement de l'angoisse comme ça, c'est inquiétant et c'est un vrai questionnement.
D'accord, donc repérer une exacerbation des sens, des difficultés parfois dans le groupe, des angoisses un peu irrationnelles et non expliquées, un changement de caractère aussi, comme on a entendu tout à l'heure.
Oui.
Et puis... Ouais,
et puis des enfants qui vont encore plus que d'autres, parce qu'on sait que pour tous les enfants, le changement est compliqué, mais qui vont encore plus que d'autres être particulièrement réactifs au changement, qui vont avoir besoin justement d'être prévenus, parce que le fait de ne pas savoir, ce temps d'attente est extrêmement angoissant pour les enfants au potentiel et pour les enfants hypersensibles. Donc ce besoin aussi d'être prévenus. Hein, d'être accompagné dans le changement.
Bah, du coup, ça va nous permettre de passer à la deuxième partie, qui est accompagner l'hypersensibilité au quotidien, parce que c'est un vrai enjeu de pouvoir assurer le confort de ses enfants, tout en assurant aussi la socialisation et l'éducation. C'est vrai qu'il faut, c'est un savant équilibre. On va écouter Claire, donc l'éducatrice jeunes enfants que j'ai interviewée sur l'accompagnement de l'hypersensibilité au quotidien.
Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas réprimander un enfant hypersensible, ou en tout cas... l'inviter à dissimuler cette sensibilité. Elle fait partie de lui. Ce qui va être intéressant plutôt, c'est d'aider l'enfant à apprivoiser ce qui vient des moments l'envahir, et puis du coup à l'aider à trouver les outils pour que son quotidien soit le plus serein possible.
On va aussi écouter madame, l'autre dame qui parle de sa fille.
L'erreur qu'on pourrait faire, c'est dire à l'enfant qu'il arrête sa comédie, que ça suffit, qu'il faut qu'il s'endurcisse, parce que par exemple, quand ma fille était en maternelle, c'est ce que son directeur d'école lui a dit. Donc vraiment pas croire que c'est de la fainéantise, que c'est de la comédie, il faut être à leur écoute et ne pas hésiter à les emmener voir des professionnels, parce que quand on découvre l'hypersensibilité de son enfant, au départ on est démuni, parce que on peut ne pas comprendre son enfant. ils ont des réactions qui sont vraiment démesurées, disproportionnées, et parfois on les comprend pas. Le fait de mettre des mots sur leurs difficultés, moi c'est à partir de ce moment-là où ma fille elle a commencé à aller mieux. On a commencé à lui dire bah écoute voilà, tu es hypersensible, c'est pour ça que tu ressens ça, c'est pour ça que tu ressens ceci. Tu es au potentiel, donc voilà, tu as des inquiétudes qui ne sont pas de ton âge et ça t'angoisse. Déjà reconnaître la souffrance de l'enfant, c'est pour moi c'est primordial. Je pense que ça fait partie de leur thérapie.
Donc voilà, deux premières remarques par rapport à l'hypersensibilité. Ne pas chercher à endurcir l'enfant et à mettre le couvercle aussi sur son hypersensibilité. Et reconnaître aussi qu'il y a une particularité. Ça ne veut pas forcément dire en faire une faiblesse ou une fragilité, mais reconnaître qu'à un moment donné, il y a un enfant avec des façons de réagir un peu différentes et qu'il va falloir s'adapter. Vous, de votre côté, Marion, vous accompagnez comment votre garçon au quotidien ?
Alors, moi, sachant que l'apport d'André, c'était qu'il ne gérait pas le flux émotionnel. Donc, depuis tout petit, je l'ai aidé à nommer ses émotions. Mais, en même temps, en progressant, il y a 10 ans maintenant, j'ai pu découvrir un livre qui m'a aidé récemment, qui s'appelle Art Mela, mode d'emploi, émotion et mode d'emploi, pardon. Et mon fils, en lisant cette bande dessinée, a pris conscience que lui, il était maître de ses émotions. En fait, ça lui a donné le pouvoir. Et à partir de là, ça a changé la donne, en fait. Même si moi, je me concentrais à lui faire nommer ses émotions, là, d'un coup, il a réalisé que c'est lui qui était maître de ses émotions et ça a tout changé. Il est beaucoup plus calme depuis. Et aussi, d'avoir nommé les choses, d'avoir dit que moi, j'étais hypersensible, voilà. Et je l'aide aussi à voir les bons côtés. Et ça a été aussi très fort. Que les gens autour de lui, les adultes qui l'accompagnent dans la scolarité soient au courant et sachent aussi se positionner correctement.
En termes d'accompagnement par les professionnels, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Vous parliez du CMPP qui n'a pas fonctionné ?
Non, le CMPP n'a pas compris mon enfant. Ils ont fait un bilan, ils sont complètement passés à côté. Alors, après ça, nous avons pu l'orienter vers une psychomotricienne en libéral, Isabelle Bloch, qui a, elle, fait le bon diagnostic et a pu aider mon enfant à prendre du recul. Elle a pu aussi expliquer aux enseignants comment il fonctionnait, ce qui a rassuré tout le monde, en fait. Par ailleurs, il a pu, dans un deuxième temps, participer à des groupes d'habilité sociale avec Marcos Carangela et Astrid Lefebvre au cabinet Hoche. Enfin, à l'époque, ce n'était pas au cabinet Hoche, mais là, ils sont au cabinet Hoche à Grenoble. Et donc, c'est des séances tous les 15 jours en groupe. Et ça a fait énormément progresser mon fils. C'est environ une 60aine d'euros par mois. Et il faut parfois attendre parce que c'est très demandé. Mais là, il a complètement évolué. Depuis, tout va bien à l'école. Il n'a plus de problèmes relationnels à l'école. Et après, bon, pour le reste, il continue d'être suivi quand il en a besoin. C'est lui qui déclenche, en fait, qui dit « j'aimerais bien parler de ça ». Et voilà, là, je reste à l'écoute.
D'accord. Et l'ensemble de ces professionnels, c'est comment vous en avez entendu parler ? Comment vous avez pu être orienté vers les libéraux ?
Alors moi, j'ai eu cette chance d'être dans le milieu de la santé. Et après, grâce aux bouches à oreilles, j'ai pu, dans mon secteur de la santé, avoir les bons professionnels rapidement. Mais c'est vrai que si on n'est pas dans la santé, je ne sais pas comment... Enfin, je pense qu'on peut être très démunis. Donc, c'est aussi ma raison pour laquelle je participe à l'émission, pour qu'ils puissent avoir le maximum d'informations. Ce que j'aimerais beaucoup, ce soit qu'à l'école, qu'il y ait plus d'informations données aux enseignants. Parce que c'est maîtresse dépendante, entre guillemets. Si la maîtresse, elle est sensibilisée, elle va actionner les bons relais. Mais si elle ne l'est pas, il ne se passe rien, en fait. Voilà. Voir ça s'empire.
Donc, on remettra bien les noms des professionnels cités, les sites cités, les ouvrages cités dans le descriptif du podcast. Donc, vous pourrez avoir toutes les infos sur parentlive.fr quand l'émission sera intégrée sur le site internet. De votre côté, vous, Séverine, l'accompagnement au quotidien de votre fils, c'est comment ?
Alors moi, en fait, pour pouvoir accompagner mon fils, il a fallu déjà que je travaille sur moi, en fait, que j'apprenne à savoir ce qui est une émotion. Parce qu'il faut savoir qu'un parent qui n'arrive pas à se réguler émotionnellement aura forcément des difficultés à accompagner son enfant dans la régulation des émotions. Donc du coup, j'ai fait tout ce travail sur moi, savoir ce que je projetais dans la relation avec mon fils, connaître mes blessures. J'ai lu énormément de livres sur l'accomplissement, en fait. Je me suis mise à la méditation. Et du coup, tout ce travail que j'ai fait sur moi, après, j'ai pu accompagner mon fils là-dedans. Donc, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'était que Yannis se sentait rejeté à l'école, en fait. Il avait cette perception qu'il se sentait rejeté. Donc, du coup, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que pour ces 10 ans, je vais inviter une grande majorité de la classe, je vais observer et je vais voir ce qui se passe. Et en fait, j'ai pu voir qu'en fait, Yannis n'était pas du tout rejeté, que tous les enfants étaient gentils avec lui, mais c'était lui qui pouvait prendre les choses de sa manière et se mettait en retrait. Donc après ça, après cette fête d'anniversaire, on en a discuté. J'ai expliqué que là, en fait, c'était sa perception qui faisait que c'était lui qui se mettait de côté. Et ça venait sans doute du fait que moi, j'ai beaucoup travaillé quand il était bébé. Donc du coup, il avait peut-être ce sentiment d'avoir une blessure de rejet. Et en fait, à partir de là, il a tout de suite intégré. Et du coup, il a commencé à se faire des copains et à changer sa perception, en fait. Donc à ce niveau-là... Ensuite, je l'accompagne aussi dans le fait que les enfants hypersensibles, ils ont vraiment besoin d'une équité, en fait, de sentiment de justice, de cohérence. Et du coup, je vais souvent me remettre en question. Moi, la manière dont je lui parle, est-ce que là, en fait, c'est cohérent? Et donc, je ne vais pas hésiter à reconnaître mon erreur, à m'excuser. Et donc, de cette manière-là, lui, ça lui permet, en fait, de refaire la même chose quand lui, il se rend compte que là, il y a son comportement, parce qu'une émotion intense peut amener à avoir des mots durs derrière. Et du coup, ensuite, il va en avoir très vite conscience, il va revenir, il va s'excuser, il va me faire un câlin. Donc, ça permet vraiment le fait qu'il peut faire une erreur, mais derrière, en fait, ça peut se réparer. En fait. Voilà.
C'est l'importance pour vous de donner l'exemple et que vous puissiez être cohérente avec ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Les enfants hypersensibles, ils sont très sensibles justement à ça, à l'implicite.
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, d'être cohérent, de donner l'exemple. Et du coup, il y a vraiment aussi les outils de la discipline positive qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont donné plus de structure, en fait, dans cette éducation positive. Et voilà, donc des outils tout simples, comme on peut parler du temps de pause, en fait, mon enfant, il a une crise très forte, il va commencer à avoir une émotion intense. Moi, je vais réagir pareil. Du coup, à ce moment-là, on prend un temps de pause et après, on revient dessus, en fait.
Ouais. Histoire de ne pas faire monter la mayonnaise, quoi.
Exactement.
Justement, par rapport aux crises, il y avait Claire qui avait un petit... Enfin, les crises ou les tempêtes émotionnelles. C'est quelque chose qui peut être assez typique chez certaines personnes, certains enfants hypersensibles, et c'est pas toujours facile en tant qu'adulte de savoir comment y répondre. Et du coup, il y avait Claire qui avait quelques petits tips, quelques petites bonnes pratiques à nous partager par rapport à ça. Binge, c'est l'audio 6, on n'est pas tout à fait raccord.
L'enfant, quand il est dans une tempête émotionnelle, en fait, il n'est plus du tout en capacité de raisonner. En fait, là, son cerveau, il est en mode archaïque. Donc, une bonne posture aussi, c'est juste d'être silencieux et d'être plus en proposition de « je suis là, je te soutiens, je juge pas ce que tu es en train de vivre. As-tu besoin ou pas de mes bras ?» Donc, des fois, le fait de se sentir rassemblé, ça vient vraiment les apaiser profondément. Pour d'autres enfants, c'est insupportable un peu cette contention. Si on peut quand même, c'est important de garder un contact aussi, au moins visuel, avec cet enfant. En tout cas, on n'isole pas tout seul un enfant qui est en train de vivre une crise, émotionnelle ou une tempête émotionnelle très forte. Parce que le fait de le mettre au loin, c'est sans doute très angoissant pour lui. Et de couper aussi notre canal visuel, ça c'est un lien qui est invisible mais qui est très fort. Mais par contre, une fois de plus, je pense qu'on a beaucoup de travail, nous les adultes, c'est-à-dire qu'il va falloir partir aussi à la rencontre de nous-mêmes, de comment ces émotions qu'on est en train de vivre à travers cet enfant, comment elles viennent nous faire résonner aussi nos propres, des fois, douleurs ou nos propres blessures à nous qu'on n'a pas encore forcément réparées.
Delphine Charrière, donc sophrologue, est-ce que vous pouvez compléter ces bonnes pratiques ou rajouter quelque chose?
Oui, alors du coup, j'aime beaucoup là, le partage de Claire qui est super pertinent par rapport à ce qu'elle évoque. Et effectivement, moi, je pars toujours aussi déjà du principe d'expliquer aux parents ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant et même aux enfants. Hein, il y a une petite vidéo qui est super à montrer sur Internet, ça s'appelle « Le cerveau dans la main » et expliquer qu'en gros, on est en mode crête quand on vit une émotion dans notre cerveau. Les enfants et les ados adorent cette petite vidéo. Elle explique vraiment bien les choses et en temps de crise, eh ben, en tant que tempête émotionnelle, pouvoir être là pour être ce soutien-là. Permettre aussi de trouver ensuite les outils qui vont permettre à l'enfant de décharger la manière dont il a besoin de décharger et justement de rassembler son cerveau et de pouvoir aller ramener là du sens. Et ensuite, on peut raisonner. Mais parfois, il faut juste être là et puis laisser passer. Hein, attendre que la tempête s'estompe.
Très bien, merci.
D'accord, il y avait quelque chose aussi qu'elle disait Claire et que j'avais remis dans l'interview, mais qui va aussi parler à certains parents. Il y a certains enfants qui se mettent en danger, qui vont soit vouloir faire du mal aux autres, soit vouloir faire du mal à eux-mêmes. Et à ce moment-là, c'est obligé d'agir. On ne laisse pas un enfant se faire du mal. Voilà, ou faire du mal aux autres parce que son agressivité est tournée vers les autres. Donc, elle redisait aussi l'importance pour les adultes de savoir nommer leurs émotions, d'aller chercher aussi ce que ravive une crise émotionnelle d'un enfant. Vous, Marion, Séverine, quand vous avez appris l'hypersensibilité de vos enfants et leur potentiel intellectuel, vous avez ressenti quoi, vous, en tant que parent? Si vous voulez, on peut écouter l'autre maman qui est par rapport à... C'est l'audio 8, s'il te plaît, Benjamin.
Alors déjà, moi, ça me ramène un petit peu à mon enfance parce que j'étais une enfant hypersensible. Donc ça, j'en ai conscience aujourd'hui parce que avant, c'était pas très bien connu l'hypersensibilité. Il y a eu une période au mois de septembre, octobre, quand on a compris ce qui se passait pour elle. Il y a eu une période où moi, je me sentais coupable en fait parce que je sais que c'est un problème familial. Et voilà, je me suis dit, mince, en fait, c'est de ma faute. J'ai l'impression de me voir petite. C'est moi qui lui ai transmis ça. Et ça l'a fait souffrir. Bon, après, voilà, on m'a permis de dédramatiser. Je suis bien entourée aussi. Mais oui, j'ai eu de la culpabilité. C'est compliqué pour nous parce que on a envie de l'aider. Et parfois, on ne peut pas l'aider. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très frustrant. Surtout moi en tant qu'infirmière, j'ai quand même comme rôle d'aider les gens, de soulager les patients. Et là, j'ai ma propre fille qui fait des crises d'angoisse, qui est anxieuse et que je sens pas bien parfois, et que je n'ai pas la possibilité d'apaiser. Et son papa, qui n'est pas du tout dans le milieu du soin, a la même sensation en fait. Donc il y a quelque chose de frustrant.
D'accord. Donc elle parle de culpabilité, cette maman aussi de frustration. Est-ce que vous, c'est des choses que vous avez pu ressentir ou est-ce que c'était d'autres choses que vous avez ressenties?
Alors moi, ça m'a ramené aussi à mon enfance complètement. Après, j'avais un autre vécu. Je trouvais ça aussi avec des bons côtés d'être hypersensible parce que ça donne aussi une finesse de perception qui amène à une finesse aussi de une pluralité de, comment dire, de choses qui sont effectivement fines et avec beaucoup d'acuité, mais pour le coup, qui peuvent être aussi assez merveilleuses. Donc, ça ne m'a pas étonnée que mon fils doit apprendre ça. Ça m'a renvoyée à ma propre enfance et puis ça m'a obligée de bouger. Ça m'a fait bouger et j'ai pu avoir la joie de montrer aussi à mon fils les bons côtés. Effectivement, alors il y a, c'est un peu... On est obligé de bouger quand on sait ça parce qu'il y a tout un relationnel qui est compliqué à gérer dans le quotidien. Il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est vrai qu'en prenant soi-même du recul, mon truc pendant des années, c'était de l'accueillir dans mes bras, en fait, pour faire tomber la pression, en fait. Et puis ensuite, petit à petit, de l'amener vers le bon côté. Les sensations positives, elles sont vachement bien, elles sont même mieux que la plupart des gens, donc tant mieux aussi, voilà.
Et d'accord, on ne l'a pas précisé, mais vous êtes vous-même hypersensible.
Voilà.
On en reparlera aussi de comment on trouve l'équilibre entre parentalité et hypersensibilité. De votre côté, Séverine, du coup ?
Alors moi, de l'apprendre, ça m'a soulagée parce que du coup, j'avais des renseignements en fait pour pouvoir mieux l'accompagner. Par contre, toutes les personnes qui pouvaient être auprès de Yanis et qui étaient dans le déni de cette hypersensibilité, j'avais du coup beaucoup de mal à l'accepter. Et du coup, j'avais en quelque sorte un combat pour expliquer aux gens, les neurosciences, comment accompagner un enfant hypersensible. Et donc, il y avait beaucoup de souffrance pour les personnes qui ne voulaient pas se renseigner sur le sujet et accompagner mon fils. Et en même temps, pour moi, un soulagement d'avoir plus de renseignements pour pouvoir l'accompagner.
D'accord. On va réécouter cette maman, c'est l'audio 9, par rapport à elle, comment elle vit la spécificité de son enfant.
C'est pas un handicap, en tout cas on ne nous l'a pas présenté comme ça, mais nous, son papa et moi, ce qu'on constate, c'est que c'est un handicap pour elle, parce que vraiment, ça la freine dans sa vie scolaire, dans ses relations sociales, et il y a une souffrance qui est réelle. Quand je la récupère à la fin d'une matinée d'école, parce qu'elle reste jamais plus de 3 heures à l'école, je la laisse le matin, elle est complètement angoissée, elle pleure, elle n'arrive plus à respirer. Je la récupère, elle est complètement épuisée. Donc oui, pour l'enfant, vraiment, c'est compliqué à vivre. Mais avec le travail qu'on fait avec la psychologue et sa sophrologue, et aussi l'investissement qu'on y met, son papa et moi, nous, le discours qu'on a par rapport à notre fille, il est très positif. Elle sait que c'est une enfant qui est atypique. Elle dit, moi, je vais en faire quelque chose de bien, en fait, de mon hypersensibilité. Nous, on lui explique, bah voilà, tu sais, tu es empathique, tu es sensible, tu prends soin des autres, c'est une force. Donc, on a un discours très positif par rapport à elle. Mais moi, quand même, au fond de moi, je considère que quand même, c'est un handicap pour les enfants.
Oui, donc entre les deux, quoi. Souligner les points positifs, mais elle considère quand même que voilà. Est-ce que Delphine, qu'est-ce qui facilite la vie d'un enfant hypersensible ?
Alors, qu'est-ce qui peut faciliter ? Déjà, je pense que voilà, ce qui a été dit aussi au cours de cette émission, c'était en tant qu'adulte d'incarner nous. Voilà, certaines choses, certaines notions. Je pense notamment au fait de la manière dont on parle, dont on s'exprime, au niveau de la tonalité de la voix. C'est hyper important hein, pour les hypersensibles. Je pense aussi le fait pour éviter justement ces situations croissantes face au changement, peut-être permettre d'avoir des routines, des choses assez visuelles aussi et des rituels qui permettent d'installer cette sécurité. De savoir à quoi s'attendre, travailler aussi des outils de retour au calme pour lui permettre voilà, de s'apaiser et puis faire des choses qui lui font plaisir parce que les neurosciences ont prouvé que lorsqu'on est en train de faire un truc qui nous fait plaisir, ben on va aller décharger toutes les émotions négatives et on est focus juste sur ce qui se passe et qui nous fait du bien. Donc voilà, retrouver du plaisir aussi.
Et plus particulièrement par rapport à la sophrologie, vous faites quoi comme exercice avec les enfants ?
Alors, on va faire beaucoup d'exercices déjà de relaxation dynamique. On va revenir avec le corps pour pouvoir faire des mouvements corporels de décharge physique, hein, parce que l'émotion, c'est avant tout des tensions hein, dans le corps aussi, une énergie dans le corps. Donc, on va apprendre à les relâcher physiquement. On travaille beaucoup aussi la maîtrise du souffle avec des petits exercices respiratoires très ludiques à mettre en place un petit peu n'importe quand. Et puis, des exercices de visualisation, de relaxation guidée finalement, où avec les hypersensibles, l'imagination est débordante et donc on peut vraiment aller leur permettre de trouver des images ressources voilà, dans tout ça.
Donc, pour finir sur cette question, sur ce qui peut faciliter la vie d'un enfant hypersensible, on va de nouveau réécouter Claire sur l'enfant n'est pas son comportement et puis le décalage entre le quotient intellectuel et le quotient affectif et puis aussi éviter les comparaisons avec les fratries.
L'adulte et les parents comme les professionnels de la petite enfance, c'est vraiment très important qu'on puisse entendre et surtout comprendre que le comportement de l'enfant, donc le comportement de l'enfant qui d'un coup on arrive à la crèche ou à l'école et va dans la direction opposée et met un grand coup de pied dans la pile de livres parce que effectivement il est en pleine tempête émotionnelle, ce comportement-là que nous souvent on va juger et qu'on va juger, critiquer et puis sanctionner vient nous parler en fait d'un besoin. Donc, je pense que ce qui serait vraiment important, c'est juste que si on puisse se refaire un petit schéma, chacun dans notre tête, comme un iceberg. Donc, il y a la face immergée, c'est ce qu'on voit. Ce que l'enfant nous donne à voir, c'est son comportement, la crise, le caprice. Et ça, voilà, ça nous donne une indication de ce qu'il y a dessous, sous la mer. Et c'est là, en fait, qu'il va falloir que nous, les adultes, on soit de plus en plus forts. C'est le besoin. Qu'est-ce que tu viens me dire? Quel est ton besoin? La corrélation qu'on a souvent observée d'enfants qui peuvent être, identifiés comme haut potentiel. Donc, la lecture souvent de l'adulte ou du parent, c'est que cet enfant, hein, il est grand, il sait déjà faire plein de choses. Mais à côté de ça, il a une immaturité émotionnelle et affective qui fait qu'il est parfois dans des comportements qu'on pourrait vraiment associer à des comportements de beaucoup plus petits. Et du coup, l'adulte, il comprend pas. Il dit, mais t'es un grand garçon, t'es une grande fille, tu vas pas pleurer parce que t'arrives pas à mettre tes scratchs. Et ben en fait, pour lui, en fait, pas mettre son scratch, c'est vraiment hyper important, et de pas y arriver, il peut avoir une réaction émotionnelle très forte. Donc nous, sachant cela, on peut vraiment réaccorder aussi des fois nos attentes et nos lectures de cet enfant-là. Donc grande maturité des fois cognitive, mais grande immaturité aussi du côté plus affectif émotionnel. En tout cas, ce qui est important toujours dans notre posture à nous d'adultes, c'est de jamais comparer un enfant hypersensible à un autre qui ne l'est pas. Et notamment, je pense par rapport aux fratries, enfin, les fratries, hein, ouais, mais regarde ton frère, lui, il fait pas tout un flanc pour mettre son écharpe quand il fait froid, alors que toi, à chaque fois, tu te mets à pleurer et on a l'impression que toute ta vie est en jeu, alors que le grand frère ou la petite sœur, pour le coup, c'est beaucoup plus fluide.
Voilà aussi l'importance d'accepter et d'accueillir ses enfants dans une même fratrie, aussi différents qu'ils soient. Éviter au maximum les comparaisons. Là, on a l'impression qu'on donne des leçons et des bons conseils. On sait bien que c'est compliqué, qu'il y a des moments où on craque. C'est pas toujours facile d'avoir des enfants tout court et puis des enfants hypersensibles qu'on comprend pas toujours également. Donc vraiment, prenez ce dont vous avez besoin. C'est certainement pas une émission pour se mettre encore plus de pression. C'est déjà se déculpabiliser, se rassurer, et puis aussi peut-être donner des billes. Faciliter la vie d'un enfant hypersensible, ça peut aussi être, à un moment donné, prendre la décision de le déscolariser, ou en tout cas une partie de la semaine. Et c'est ce qui s'est passé pour cette maman qui va nous l'expliquer.
En fait, son hypersensibilité, ça a généré en fait une phobie scolaire. Parce que du coup, à l'école, il y a beaucoup trop de stimuli pour elle et elle ne le supporte plus. Donc, on tient quand même à ce qu'elle garde un pied à l'école et un lien social quand même avec les autres enfants. Du coup, les bonnes semaines, elle arrive à aller une à deux demi-journées à l'école. Mais voilà, on parvient pas à la mettre plus souvent. Alors, c'était trop tard pour qu'on l'inscrive pour le CNED, pour l'école à la maison. Mais si ça s'arrange pas, hein, c'est ce qu'on sera obligé de faire pour le CE2. Donc là, on fait l'école à la maison avec l'aide de son maître, en fait. Donc, quand je travaille, c'est son papa qui s'en occupe. Hein, il s'est mis en télétravail la moitié de la semaine pour pouvoir s'en occuper. Moi, je suis passée à mi-temps aussi pour pouvoir plus m'occuper d'elle. Et puis, elle a des rendez-vous hein, en CMP avec une sophrologue. Et puis voilà, ça s'articule comme ça. On a l'aide aussi de nos parents, enfin de ses grands-parents. Et voilà, il y a toute une organisation qui s'est mise en place autour de ça. Nous, on nous a quand même expliqué que la scolarité, elle serait compliquée à cause de l'hypersensibilité. C'est pas comme une pathologie somatique qu'on peut soigner avec des médicaments comme ça et la maladie, elle disparaît. Là, c'est des prises en charge sur le long terme. Alors autant l'hypersensibilité, si c'est pris en charge très tôt, comme ma fille là à 7 ans. Elle peut trouver des moyens, des outils, à l'aide des professionnels, hein, pour pouvoir faire face à ça et que la phobie scolaire, ça menuise et qu'elle retrouve les chemins de l'école rapidement. Ou alors, sa scolarité, sera chaotique à cause de ça sur le long terme. Ça, on peut pas l'anticiper en fait.
D'accord, moi, j'apprécie le calme et là, avec lequel cette maman parle de cette situation et comment elle s'est adaptée, comment ils comprennent les choses aussi avec le papa. On va faire une petite pause, je crois, Greg.
Tout à fait, Flo, histoire de respirer un peu en musique. On se retrouve juste après pour ce Parent Live numéro 12, consacré aux enfants et parents hypersensibles. Restez avec nous.
News FM. Things you made believe, things we said we should achieve. You took it all like a thief. Why'd you do that?
till that day I was so naive, but then I saw a face I'd never seen. You were a different one anytime you leave. I never knew that. It's bowing down to who's above or looking down on who's below.
Et de retour donc dans ce Parents Live, les amis. À l'instant, c'était Patrice et Célassou avec Faces. Parents Live numéro 12, enfants et parents hypersensibles, Flo.
Et oui, c'est ça. Donc, on a parlé de comment on identifie l'hypersensibilité chez un enfant, comment on l'accompagne au quotidien en tant que parent, en tant que professionnel. Maintenant, on va se demander comment on réagit face à l'entourage, qui peut être parfois compréhensif, mais pas toujours. On va entendre une maman nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec son entourage.
Nous, on a été très bien entourés, c'est-à-dire que au niveau de la famille, on a bien expliqué les choses et ça a été bien compris et ils le prennent en considération du coup quand ils sont avec notre fille, hein, ils font attention. Et l'équipe pédagogique dans l'école de ma fille a été extrêmement compréhensive. On a mis un PAI en place à l'école. Il nous permet de l'emmener un peu quand on veut et de venir la chercher quand on veut. Et puis, il nous aide aussi, il nous donne des outils pédagogiques pour pouvoir faire l'école à la maison. Vraiment, on s'estime heureux. C'est vraiment une bonne ressource aussi pour ma fille qu'elle soit entourée de bienveillance.
D'accord, pour précision, donc cette maman, dans ce témoignage, elle parle de PAI, donc c'est ce qu'on appelle un projet d'accompagnement individualisé qui est mis en place entre les parents, l'enfant et l'école pour justement individualiser l'accompagnement dans la scolarité d'un enfant. Du coup, de votre côté, Séverine, vous, ça se passe comment avec votre entourage, donc ça, que ce soit l'école, vos propres amis, votre famille, les copains de votre garçon?
Alors, pour l'entourage, donc déjà, il y a le papa. Donc le papa, il est dans le déni, en fait, de ce HPI et de cette hypersensibilité. Donc, du coup, je me suis battue au début pour qu'il l'entende, qu'il le comprenne et qu'il adapte son éducation. Et puis, en fait, il y a 2 ans, j'ai accepté, en fait, qu'on ait des styles éducatifs différents. Et du coup, j'ai accepté la situation par rapport à ça. Voilà. Après, Yannis, ça lui permet aussi de voir d'autres choses aussi, parce que dans la vie, tout sera pas tout beau, tout rose. Donc, ça lui permet aussi de voir tout d'autres choses. Mais après, voilà, son papa l'aime très fort aussi. Hein. Après, pour Yannis et ses copains, donc en fait, il ne dit pas à ses amis qu'il est HPI ou qu'il est hypersensible. En fait, il veut pas qu'il y ait de différence. Voilà, il veut qu'il y ait. Et puis, souvent, il s'entoure d'amis qui sont sensibles, en fait, je dirais pas hypersensibles, mais qui ont une sensibilité à ça, qui ne vont pas être moqueurs. Donc, du coup, ça se passe bien. Pour l'école, ça s'est toujours bien passé parce que Yannis était un enfant calme, c'est un enfant calme, c'est un enfant pertinent, c'est un enfant qui va être sensible aux adultes. Après, là, maintenant, il est en 5e, donc là, maintenant, il commence à y avoir des observations dans le carnet de correspondance. 8 ans, 2 mois, il n'en avait jamais eu de sa vie. Et donc, je sens que là, aujourd'hui, le système scolaire commence à être compliqué par rapport à son HPI. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre en place un PPRE. Et du coup...
C'est quoi un PPRE?
Alors, un PPRE, c'est un... Alors, je vais vous dire exactement, je l'ai noté. C'est tout nouveau pour moi, ça aussi. Donc,
j'arrive avec ma question de novice.
C'est un programme personnalisé de réussite scolaire.
Ok,
voilà.
D'accord.
Donc, c'est toutes des choses que je vais découvrir. Après le PPRE, on peut mettre en place un PPA, donc un plan d'accompagnement personnalisé.
D'accord.
Et donc ça va être tout nouveau pour moi. Je vais découvrir ce que c'est. Mais ce que j'ai compris, c'est que du coup, on va se réunir avec la prof principale et ensuite avec les autres enseignants et voir du coup qu'est-ce qu'on peut mettre en place chacun pour pouvoir au mieux accompagner Yannis. Voilà.
Ok.
Voilà. Et donc, c'est bon. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet.
Et de votre côté, Marion?
Oui, alors nous, au niveau de la famille, le papa est compréhensif parce qu'il lui-même est hypersensible, donc comprend son fils. L'entourage, pour l'éducation nationale, je dirais que c'est, par rapport à son parcours, ça a été très maîtresse dépendant. Donc, c'est ça que je regrette un peu, c'est que j'aimerais que l'éducation nationale soit plus informative auprès aux formateurs, auprès des enseignants. Et voilà. Ensuite, pour les copains, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on est passé à... On ne veut pas garder votre fils après l'avoir gardé une fois, voir ses limites, les anniversaires, s'il se faisait inviter l'année d'après, pas sûr. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, en fait. Il est accepté comme il est, voilà. Et c'est vrai qu'il a tendance à être attiré par des copains comme lui. Mais il a, voilà, au niveau social, ça va bien. C'est vrai que bon, ça reste quand même, effectivement, hein, il y a aussi des choses qui peuvent être associées. Voilà. Mais une fois que j'informe les gens, je pense qu'après il y a une compréhension qui fait que lui-même Et dans cette conscience, il peut aussi parler de sa différence. Donc, ça se passe mieux maintenant. Voilà.
Donc, on va entendre cette maman parler de la socialisation avec sa fille, notamment avec ses copains.
Alors, au niveau de l'entourage proche, elle n'a aucun problème relationnel. Vraiment, elle est complètement à l'aise, elle n'est pas du tout stressée. Ce qui est plutôt compliqué, c'est les interactions avec les autres enfants de son âge, ou surtout dans le milieu scolaire, ou des personnes qu'elle ne connaît pas. Voilà, ça c'est un peu compliqué parce que ce sont des enfants anxieux, et du coup, elle reçoit les émotions, qu'elles soient négatives ou positives, elle les reçoit en fait de façon disproportionnée. Donc, une petite dispute, moi par exemple chez ma fille, ça prend des proportions que ça ne devrait pas prendre.
Elle est en larmes. Je sais qu'on en a pour 2 jours à entendre parler de cette histoire, et on sent que quand elle nous en parle, elle a une boule dans la gorge, alors que c'est vraiment, ce sont vraiment des événements anodins. Mais voilà, chez les enfants qui sont hypersensibles, ça prend des proportions, c'est vraiment disproportionné. Eh ben en fait, elle est plutôt au clair avec ça, parce que déjà, elle arrive à bien verbaliser et elle nous explique que elle sait que c'est difficile pour elle. Elle nous dit, je me sens stressée quand je suis avec mes amis, et c'est comme ça, j'arrive pas à faire autrement. Et pourtant, je pourrais passer des bons moments avec eux, mais je suis toujours stressée, et du coup, je reste avec les adultes parce que ça me calme. Elle a vraiment cette capacité d'analyser ce qu'elle ressent. En plus, ce sont des enfants qui se remettent beaucoup en question, donc voilà, elle le verbalise vraiment très facilement.
Donc, pas toujours simple, en tout cas, pour cette petite fille de vivre avec les autres, notamment avec les autres enfants, l'envie de bien faire, l'envie de donner le meilleur de soi, avoir peur aussi de décevoir. Donc, beaucoup de pression. Y a certaines personnes qui veulent pas reconnaître les particularités d'un enfant hypersensible, qui vont minimiser les difficultés en disant « Ah non, mais ça ira mieux quand il grandira », ou qui ne comprennent pas, par exemple, l'absence de sanctions, le dialogue, parce qu'on, comme on l'a vu, les outils de la discipline positive et de l'éducation bienveillante, c'est particulièrement recommandé face à l'hypersensibilité. Claire, elle m'a parlé de ça, de comment, à un moment donné, se positionner face à... Enfin, pourquoi des personnes, des fois, sont un peu... ont du mal à accepter ces façons de faire et les particularités des enfants. On va l'écouter. C'est l'audio 15.
C'est une révolution aussi pour nous les adultes de repartir un peu et ça vient aussi des fois un peu parler d'une espèce de loyauté aussi parentale. Si on vient complètement détricoter ou ré-questionner l'éducation que nos parents ils nous ont donnée, qu'est-ce qu'on vient dire de ça? Ah, vous avez été des mauvais parents. Regardez comme moi je vais faire mieux. Parce que peut-être il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué d'assumer ça. Alors, une fois de plus, toute bienveillance. Moi, j'ai envie d'aller vers d'autres directions, mais ce que vous avez fait, vous l'avez sans doute fait avec plein d'amour aussi. Donc, soyons bons avec les plus anciens. Ils ont fait ce qu'ils ont pu.
Tout à fait. Soyons bons avec les anciens. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Delphine, comment réagir face à l'incompréhension ou au déni?
On fait comme on peut. Je crois que Claire, elle l'a bien dit, c'est que tout ça, c'est vraiment une révolution. Et les neurosciences, voilà, on découvre plein de choses et on va découvrir encore pendant plein d'années. Et je pense qu'il faut bien accepter chaque personne telle qu'elle est. On ne pourra pas faire changer la personne en face si elle reste campée sur ses positions. Je pense que ça fait sûrement écho aussi à plein de choses chez elle. Le tout, c'est d'échanger, d'être dans la bienveillance et puis de voir comment on peut avancer avec tout ça. Mais je pense qu'il faut entendre qu'on part de loin quand même par rapport à notre vision de l'enfant. Donc des petits pas.
D'accord. C'est Séverine aussi qui me disait quand on préparait l'émission, j'aurais envie que les gens ils me posent plein de questions et que je puisse parler de ce que j'apprends, de ce que je comprends. Et puis finalement, les gens ne sont pas forcément réceptifs. Quoi. On va passer à la dernière partie de l'émission qui est être parent et hypersensible. Marion, Séverine, comment vous, votre hypersensibilité, elle se traduit dans votre parentalité?
Je vais y aller. Je commence. J'étais complètement dans le déni de ma sensibilité. Voilà, moi j'ai une éducation où du coup la sensibilité c'était très mal vu, fallait s'endurcir. Et je gardais tout en moi en fait. Donc c'est pour ça quand Yanis avait ses émotions exacerbées, je comprenais pas parce que moi quand j'étais enfant, je me permettais pas, je gardais tout en moi. Mais donc du coup je me disais pas que j'étais hautement sensible parce que ça ne ressortait pas comme Yanis en fait. Et il a fallu quand même, donc ça fait juste un mois que j'ai percuté, que j'étais hautement sensible. Parce que donc du coup, suite à cette proposition d'émission, j'ai fait plus d'investigations sur l'hypersensibilité, en dehors du HPI, avec des tests, dont le livre de Mon enfant est hautement sensible d'Hélène Herron. Et donc, comment elle se traduit cette haute sensibilité dans l'éducation de mon fils? C'est que on va ressentir en fait quand l'enfant va avoir une émotion, on va ressentir en fait ça tout de suite, ça vient aux tripes, et tout de suite, on peut se mettre à sa place. Mais du coup, voilà, tout ce travail de régulation d'émotions qu'on en a discuté tout le long de l'émission, c'est très important justement pour dire c'est son émotion, c'est pas la mienne. Du coup, pour pouvoir prendre une prise de recul et pouvoir l'accompagner au mieux, en fait. Mais voilà, cette sensibilité, ça permet vraiment de se mettre à la place de l'enfant, de comprendre ce qu'il est en train de vivre, voilà, d'être au plus proche de ce qu'il vit, en fait. Voilà.
Oui, du coup, pour moi, c'était aussi comme une redécouverte à la lecture de Hélène Aron et des livres comme ça qui m'ont fait me rappeler, entre guillemets, que j'étais hypersensible. Pour le coup, moi, ce qui m'a aidée, c'est de le poser avec lui, en fait. Ça a éclairé beaucoup de choses dans notre relation. Ça a fait baisser la pression. Je sais que c'est compliqué. C'est plus difficile, je pense, pour en étant soi-même hypersensible. Il faut beaucoup travailler sur soi. En même temps, je peux le mieux le comprendre aussi. Voilà. Il y a positif et négatif. Mais dans l'ensemble, moi, je reste convaincue qu'une hypersensibilité, c'est quand même quelque chose qui est un beau cadeau de la vie. Et donc, c'est ça que je veux transmettre à mon fils. Il a de la chance d'être comme ça. Sa différence est une chance, voilà.
Delphine, vous auriez quelle recommandation, vous, à donner aux parents qui sont hypersensibles eux-mêmes ?
Eh bien, déjà d'avoir une grande bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes déjà, parce qu'en tant que parents aussi, on a le droit d'être débordés aussi par nos propres émotions, s'autoriser aussi à souffler parfois, parce que ça demande une énergie folle d'accompagner nos enfants dans cet apprentissage hein, qui est la découverte et l'apprivoisement de toutes leurs émotions. Et puis, j'ai envie de dire aussi... de s'accepter aussi tel qu'on est, hein, avec nos sautes d'humeur aussi à nous en tant que parents, avec nos forces aussi, et puis voilà, d'être dans un savant équilibre dans tout ça.
Alors moi j'ai une petite question à rajouter, si tu permets Flo, justement pour Séverine et Marion, puisque vous êtes hypersensibles vous-même, vous avez avec des enfants hypersensibles. Là, on est bien en train de prendre conscience qu'il y a toutes des études qui maintenant et des soutiens pour les enfants actuels aujourd'hui et tout. Vous, quelles ont été votre ressources ? Tout à l'heure, tu évoquais le fait que toi, c'était s'endurcir, Séverine. Mais vous, quelles ont été vos ressources en fait en tant qu'hypersensible ? Vu qu'on n'y avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, les mêmes détections de ci, de ça ou les mêmes discours autour de ça.
Alors moi, c'est vrai qu'en tant qu'enfant, j'étais se manifestait, c'était une difficulté dans la prise de parole devant un groupe. Donc, je pouvais facilement énormément rougir, perdre mes moyens. Donc, je suis allée vers le théâtre. Moi, c'est le théâtre qui m'a aidée à gérer mes émotions, à les mettre de côté et puis à pouvoir prendre la parole malgré ce flux d'émotions qui submerge. Après, je passais pour une fleur bleue, je passais pour une fille qui était trop sensible. Souvent, on me disait, mais enfin, Marion, comment t'arrives à vivre comme ça dans la vie en prenant tout autant à cœur, etc. Donc, c'est vrai que je n'ai pas moi-même été accompagnée, j'aurais bien aimé vis-à-vis de ça, mais j'ai eu la chance d'avoir des amis. Parce que je pense qu'on s'attire en tant que personne en disant hypersensible. Ouais. Et j'ai eu beaucoup d'amis comme moi. Donc, ça a permis de relativiser, de dédramatiser, ouais. Et puis de dire, bon, on est différents, mais on n'est pas tout seul différents.
D'accord, le théâtre, les amis, quoi,
ouais.
L'entourage. Et Séverine, c'était... Alors, tu l'as découvert il n'y a pas longtemps.
Oui, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que la manière dont on peut me décrire, on va dire que je suis quelqu'un de sensible et de forte. Donc, du coup, cette éducation qui a fait que je me suis endurcie, que ça a été compliqué, parce que du coup, les émotions ne pouvaient pas ressortir. Donc, du coup, dès ma plus jeune enfance, j'avais des maux de tête tous les jours et je ne savais pas pourquoi, en fait. Ouais. Donc, non, il n'y a pas eu d'accompagnement, mais du coup, c'est vraiment vers les 26 ans, en fait, où là, parce que voilà, j'étais comme Marion, j'étais très timide, j'étais très renfermée. Dès qu'on me parlait, je devenais toute rouge. Quand j'étais absente à l'école, les profs ne remarquaient même pas que je n'étais pas là. C'était très, très compliqué. Et puis, à 26 ans, donc on dit qu'à 27 ans, c'est la majorité spirituelle, en fait. C'est que, du coup, le cerveau, il a terminé de maturer, en fait. même si on, c'est ça toute notre vie, mais une grande partie. Et du coup, à partir de là, j'ai vraiment pu, pu bouger et travailler et commencer un travail sur moi, en fait. Et c'est vraiment le fait d'avoir Yanis qui m'a permis de vraiment grandir et de continuer, de m'amener toujours plus loin, en fait, sur mes retranchements, mes freins, mes blocages. Et, donc, les ressources, elles sont vraiment arrivées plus tard, en fait, ouais. Par une décision qu'il faut changer, en fait. Il faut apprendre à se connaître. Mmh. Voilà.
OK. Mmh. Très bien.
On va conclure en se disant un petit peu qu'est-ce qui, pour vous, sont les forces et les potentiels de ces enfants, de vos enfants. Marion, vous en avez un petit peu parlé, mais c'est bien qu'on se le redise aussi, qu'on se mette un petit coup de boost en fin d'émission. Alors, pour vous, c'est quoi les forces et les potentiels de vos beaux enfants hypersensibles ?
Alors, mon fils, c'est un enfant qui est plein d'amour, très affectueux, qui va toujours faire des câlins. C'est vraiment, c'est énorme tout cet amour qu'il peut y avoir dans une personne. Ensuite, les forces, il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas parlé dans l'émission que j'aimerais quand même dire et qui va expliquer les forces aussi de ces enfants. C'est qu'en fait, c'est l'hypersensibilité, en fait, c'est une stratégie de survie de l'espèce. Et du coup, on va voir tous ces détails, toutes ces informations. Je vais prendre l'exemple de Hélène Aron, elle dit dans son livre, c'est par exemple, il y aura deux cerfs, parce que ça se manifeste aussi chez les espèces animales. Il y aura deux cerfs dans une forêt. Et du coup, au bord de la forêt, il y aura un champ. Et en fait, il y aura le cerf hypersensible qui va voir des odeurs, des ombres, sentir le vent. Et du coup, il va pas aller tout de suite aller manger dans l'air parce qu'il va dire peut-être qu'il y a un danger. Et là, en fait, il y aura le cerf audacieux qui va arriver. Et il va sauter dans le champ. Et là, en fait, il y a un prédateur. Et ça peut mal se terminer pour lui. Donc, en fait, l'hypersensibilité, c'est ça. C'est que du coup, ça nous permet en fait, d'avoir plus conscience des choses négatives qui peuvent arriver derrière. Donc du coup, on va prendre un temps de pause, on va analyser et ensuite on mettra en place des actions ou pas. Et du coup, c'est ça, nos enfants, c'est qu'en fait, ils ont conscience des effets négatifs d'une action. Donc du coup, ils vont en prendre, ils seront moins d'actions négatives.
Marion, juste avant de vous donner la parole, je crois que Delphine, vous devez nous quitter.
Oui.
Ouais.
Tu vous, oui.
Ouais, tu dois nous quitter.
Ouais, merci pour ces échanges et puis bravo à ces mamans avec leur partage vraiment formidable. Je trouve que c'est super de pouvoir donner tous ces témoignages pour tous ces parents qui sont en questionnement et on est toujours en questionnement avec ces enfants. Donc merci vraiment pour tout ça.
Ben merci à toi aussi pour ces retours, pour ton regard de pro et à bientôt.
Merci, au revoir.
Donc, on a pu dire au revoir à Delphine. Marion, on reprend oui. Voilà, sur les forces et les potentiels des enfants hypersensibles.
Ouais. Donc, moi, j'ai mon fils, c'est vrai qu'il il se soucie de l'autre. Il a un grand cœur. Il a envie d'aider les autres. Il est sensible à tout ce qui peut être écologie, c'est-à-dire voilà, des sujets qui sont importants pour demain. Et ça, ben, c'est tant mieux. C'est une force. Et certainement, pour l'avenir, on peut imaginer des enfants qui vont s'investir, qui vont s'impliquer et qui vont apporter qui vont participer aux grands enjeux de demain. Voilà, donc pour moi, ça, c'est très important. Et tant mieux. Et autant les mettre en avant. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est la façon dont c'est perçu qui est négatif. Mais en réalité, c'est plutôt cette intensité d'émotion et plutôt quelque chose de positif. Voilà, je rejoins Séverine dans son analyse.
C'est Saverio Tomasella qui appelle un peu à une révolution hypersensible en disant « mais en fait, on gagnerait tous à être plus sensibles ». Il y a un petit peu... La société industrielle, on va dire le capitalisme, si on emploie les grands mots, qui fait en sorte qu'on soit un petit peu tous dans un même moule pour avancer.
Et qu'il faille s'endurcir aussi.
Ouais, exactement. Mmh. Et c'est important aussi de se dire que l'hypersensibilité, c'est peut-être juste aussi une sensibilité qui n'a pas été trop émoussée, quoi. Et pas trop moulée. Mmh. On va finir par écouter la maman que j'ai interviewée sur les côtés positifs des atypiques.
Avoir un enfant atypique, c'est sympa aussi, parce que c'est des enfants qui ont quand même beaucoup de qualités. Hein. Ils sont en fait très empathiques. Ils ont une façon de percevoir le monde
Alors, qui est très subtil. En fait, ils l'analysent pas vraiment comme des enfants de leur âge. Ils ont quand même une maturité par rapport aux autres enfants. C'est assez assez perturbant. Ils prêtent beaucoup attention à l'implicite, en fait, à la communication non verbale. Ils sont toujours dans l'observation. Et c'est des enfants aussi qui absorbent beaucoup les émotions des autres. Donc.
Voilà. Des enfants qui absorbent beaucoup les émotions des autres et qui, du coup, ont une capacité aussi à les comprendre. Eh bien, on va s'arrêter là.
Ben oui, écoute, ça va être l'heure de se quitter. C'est toujours très court, hein, ouais, j'ai l'impression.
Trop court.
J'ai toujours l'impression qu'on vient de commencer. Mais oui, on va rendre l'antenne et on va remercier donc nos invités aussi.
Ouais, donc ce qui est important de se dire, c'est souvent l'hypersensibilité, c'est ce que vous disiez aussi Marion, c'est associé à l'émotivité, à la fragilité. Mais en fait, si l'entourage, notamment les parents, l'école, pour les enfants et puis le milieu professionnel et l'entourage amical pour les adultes acceptent, comprennent, s'adapte, l'hypersensibilité, elle s'apprivoise. Donc on a vu que bienveillance, communication, respect, humour, recul, amour, patience, l'accompagnement des enfants au potentiel intellectuel et ou hypersensible à la lumière des neurosciences affectives, c'est un concentré d'éducation positive. Je vous encourage à écouter l'interview de Claire que je mettrai en bonus de cet épisode pour vous familiariser un peu plus avec cette approche. Et je dis vraiment un immense merci à Marion et Séverine, aux mamans et aux pros qui se sont joints à nous pour cette émission, d'avoir partagé votre vécu, votre expérience. On espère que pour ceux qui nous ont écoutés, ces témoignages vont vous rassurer, vont vous guider, vont vous aider. Et aussi peut-être amener aussi des professionnels qui nous auront écoutés à s'occuper des enfants hypersensibles, peut-être un peu différemment.
Toutes les références, Flo, citées pendant l'émission, elles seront indiquées dans le descriptif du podcast.
On va faire un petit livret parce qu'il y en a beaucoup.
Ouais, il y en a beaucoup, exact. Donc, n'hésitez pas à contacter Parents Live pour faire vos retours ou compléter les témoignages entendus. Vous pouvez suivre l'actualité sur le Facebook, l'écouter sur YouTube aussi, avec Deezer, Spotify et voilà, et l'ensemble du projet sur parentslive.fr.
Oui, ça y est, depuis hier, maintenant la saison 1 et la saison 2 de toutes les émissions sont disponibles sur YouTube, sur Deezer et sur Spotify, ainsi que sur Ocha. Et nous, on se retrouve le 10 mars pour une émission consacrée au difficile équilibre entre vie de famille, vie professionnelle et le reste. N'hésitez pas à nous contacter pour y participer, il y a encore des places et on vous espère nombreux. Merci.
Yes, merci beaucoup à tous.
Écoute ce titre. C'est une nouveauté News FM. Écoute News FM. Sur le 101.2.